Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground.
Bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous aviez la chance d'être né dans le bon pays, celui qui n'est certes pas parfait, mais qui a le mérite de vous permettre une liberté de choix et de vie presque totale? Moi oui, je sais, et je mesure cette chance. Ce dont j'avais peu conscience, néanmoins, c'est qu'un pays est capable de reculer sur ses droits, sur cette liberté sexuelle. C'est le cas de la Russie. On savait le pays peu ouvert, et pourtant de façon assez contradictoire, la jeunesse russe nous expose une sexualité relativement libre et renvoie cette image au pays étranger, ce qui a pour conséquence de troubler notre perception de la réalité. Mais est-ce que vous saviez que, depuis l'année dernière, la Constitution intègre un article qui définit la composition d'une famille ? J'avoue avoir suivi de loin cette oppression, justement en m'étant dit que nous avions de la chance. Anna m'a raconté son histoire, celle de son couple avec Pauline, celle de la rupture familiale qui a suivi l'annonce de sa rencontre avec sa femme, celle de la naissance d'Arsénie, guérisseuse, qui l'aide à recoller les morceaux, celle de sa culture russe qui lui a nécessité des ajustements dans son couple, et celle de sa culture française qui lui a nécessité des ajustements auprès de sa famille. Anna, parce que leur famille n'est pas reconnue en Russie, sait. Elle sait quelle chance nous avons de pouvoir le faire en France malgré tout. Ce qu'elle a découvert en revanche, c'est que toute la société n'est pas prête et que malgré une législation claire, certains spécialistes se permettent de faire parler leurs propres convictions. Avec Pauline, elles ont dû se battre pour modifier la procédure d'adoption qu'elles avaient engagée et surmonter les discriminations dont elles ont été victimes. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anna.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet entretien. Je précise à nos auditeurs que j'ai découvert ton profil sur Instagram suite à des interventions en MP où tu étais venue commenter certains de mes posts. Et j'ai trouvé que ton profil, enfin que votre profil était hyper intéressant parce que vous avez une composante multiculturelle qui, je pense, se retrouve dans de nombreuses familles. Donc j'aimerais évoquer ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille, s'il te plaît?
Merci Constance pour cette invitation. Ça me fait plaisir effectivement de donner mon témoignage.
Je t'en prie.
Je m'appelle Anna. Je suis d'origine russe. Je suis née en Russie et je suis en couple avec Pauline qui est française. Et on a notre petit garçon qui s'appelle Arsénie et qui est du coup d'une double culture franco-russe.
D'accord. Arsénie, c'est un prénom d'origine russe ?
Russe. C'est un équivalent D'accord. russe de Arsène, on va dire.
D'accord, ok. Alors, du coup, toi, t'es arrivée en France récemment ou t'es arrivée en France il y a longtemps ?
Ça fait bientôt 10 ans que je suis en France. Je suis arrivée D'accord. en 2011 pour faire mes études de master. Mmh. Et après, je suis restée...
Est-ce que c'est un rapport avec Pauline ou pas du tout?
Oui, c'est un rapport avec Pauline parce qu'on s'est rencontrés assez rapidement. On s'est rencontrés à l'université d'ailleurs. Mm-hmm. On n'a pas commencé à être ensemble tout de suite, mais je l'ai rencontrée la première année. Mm-hmm. En fait, elle était intervenante professionnelle au master D'accord. où j'étais. et je me suis dit, oh mon Dieu, je me souviens, j'ai appelé ma meilleure amie à l'époque, je lui disais que j'ai eu un gros coup de foudre, mais ça va pas du tout être possible parce que, intervenante professionnelle, je vais pas oser de me rapprocher d'elle. Voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. Mmh. Et donc, j'ai fait une stratégie de me dire peut-être que je peux déjà, dans un premier temps, faire en sorte qu'elle se souvienne de moi, de un peu sortir du lot de 150 étudiants pour oui. qu'elle se souvienne un peu de ma tête.
Et puis, c'est clair sur 150 étudiants.
Voilà, donc bon, j'ai... Ça a plutôt marché, on va dire. Bon, elle s'est souvenue de moi et quand on s'est rencontrés pour de vrai, quand j'étais en deuxième année de master, j'ai pu finalement me rapprocher d'elle et donc on a eu une première histoire assez courte à ce moment-là. Mm-hmm. Et justement, tu me parles des différences culturelles. Je pense que ce qui a fait au départ que ça a été assez court, c'était justement nos différences culturelles. Parce que j'étais peut-être encore trop russe à l'époque, je venais d'arriver en France.
Et du coup, qu'est-ce qui dans ta personnalité russe, on va dire, en tout cas dans ta culture russe, a joué ?
Après ça, je pense qu'il faut demander à Pauline, mais en tout cas, c'est très différent. On va dire peut-être, je dirais que les Russes, en termes de relations, on a une grande importance qu'on accorde à la fidélité, à l'attention qu'on demande de l'autre personne. Alors, mm-hmm. peut-être en France, tu vas pas être tout de suite dans une relation rapprochée. Enfin, c'est pas tout de suite un engagement.
Oui, voilà.
Donc, et en Russie, à partir du moment où tu dis que t'es avec quelqu'un, tu attends quand même une certaine présence de la personne dans ta vie. Je pense que c'est peut-être ça aussi, c'était différent. Après, c'est des valeurs, c'est des réactions au quotidien. Ou par exemple, une chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est le second degré, qui ne marche pas du tout en Russie. En tout cas, la façon française, tu peux vraiment avoir des sérieux problèmes si tu fais certaines blagues. Et oui. je pense que moi, au départ, ça marchait pas trop. Alors que ce soit Pauline ou quelqu'un d'autre, hein, je prenais mal les blagues second degré à la française.
Bon, après, il y avait peut-être aussi... La barrière de la langue, parce que mine de rien, il y a des subtilités des fois dans la façon dont on dit les choses qui font que tu comprends que c'est de l'humour, et peut-être que pour toi, c'était pas simple à ce moment-là.
Peut-être. Mais je pense que ça, oui, c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose d'assez fin et qui se base sur des choses culturelles, où on n'a pas les mêmes références.
Oui, tout à fait.
Tout ce qui est possible ou pas possible, des choses sur lesquelles tu peux faire de blagues et ne pas peux faire de blagues, oui, effectivement, c'est dans chaque culture, c'est différent.
Oui, c'est complètement différent, effectivement. Et du coup, vous êtes retrouvés sur des formats en fait, d'enseignement plus petits, on va dire. C'est pour ça que vous avez pu, à ce moment-là, converser de façon plus simple ?
Non, pas du tout. En fait, quand j'ai fait un master 1 dans une première université, on va dire, où Pauline, elle intervenait, et quand j'étais en master 2, j'étais une autre université où elle n'était pas du tout intervenante, donc on était complètement sortis du cadre élève. C'est pour ça que, finalement, je me suis permise de faire un rapprochement, on va dire.
Mais du coup, t'avais ces coordonnées ?
Je pense qu'on s'est recroisés à un moment donné parce que bon, le réseau d'étudiants internationaux, ça reste assez restreint, on va dire. Donc on s'est recroisés dans ce réseau-là et après, c'est venu assez naturellement.
Et donc une première histoire donc, qui s'est finie assez rapidement. Comment ça s'est passé ensuite pour vous retrouver ?
Et après, pour nous retrouver, donc bon, on était un peu passé à autre chose toutes les deux. Et c'est Pauline qui est revenue vers moi dans un deuxième temps parce qu'elle s'est rendue compte que peut-être qu'elle était passée à côté de quelque chose d'important dans la vie. Et on a recommencé sur une autre base, on va dire. Et d'ici là, je pense que j'ai quand même un peu plus assimilé la culture française, les échanges, l'humour... Et ça a été plus simple. Enfin, il n'y avait peut-être pas que ça, mais sans doute, je pense que ça, le fait que je m'intègre un peu plus, ça a joué.
Oui, bon, elle a eu quand même un coup de foudre de son côté aussi, enfin, parce que pour revenir vers une histoire, c'est que elle se doutait bien qu'elle était passée à côté de quelque chose, effectivement.
Oui, je pense. Ouais.
Donc, vous avez construit votre histoire, vous avez commencé votre histoire. Tu me disais que tu attendais un certain engagement. Est-ce que c'était toujours le cas? Est-ce qu'elle s'est engagée plus? Est-ce que vous avez avancé vite, pas vite? Comment ça s'est passé pour vous?
Non, je pense pas que ça a été plus vite. Enfin, on a commencé une relation, on va dire... Déjà, on s'est retrouvés dans la même ville, parce que Pauline, elle était partie travailler à Montpellier, et j'ai pu trouver mon premier travail là-bas.
D'accord.
Donc, le fait d'être dans la même ville, on a pu se voir plus. On a commencé à vivre ensemble, après, assez rapidement. Et puis, on s'est jamais quittés. Mais je pense que le fait que moi, je me francise en quelque sorte et je me détende un peu, a facilité aussi la relation, on va dire ça.
Oui, mais c'est sûr. C'est vrai que les différences culturelles, quand la personne, je pense, n'a pas vécu beaucoup en France, c'est pas simple, tu vois, de s'adapter ou de comprendre certaines façons de faire ou de penser. Quand tu connais pas le pays dont la personne vient du tout, parce que je pense que c'était le cas de Pauline.
Oui, c'était le cas de Pauline.
Oui, c'est pas forcément évident. Et puis, c'est vrai que nous, en France, on a une perception de la Russie. Enfin, soyons clairs, hein, c'est... pas forcément la meilleure version de l'histoire, je pense qu'on a. Donc bon, voilà, ça biaise beaucoup de choses.
Après, il faut dire quand même que Pauline, elle a une grosse sensibilité internationale. Elme-même, elle a vécu au Brésil.
Ah oui, d'accord.
C'est autre chose. Mais elle sait ce que c'est d'être en relation avec quelqu'un
s'adapter.
Qui vient d'un autre pays, d'être toi-même dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, cette ouverture d'esprit internationale, elle l'a. À la base, et je pense que, enfin, comme on l'a toutes les deux, ça fait que ça marche. Ça nous a permis de dépasser ces barrières culturelles. Je pense que s'il suffit d'être attentif à l'autre, il y a certaines valeurs et façons de faire qui vont au-delà des barrières culturelles.
Oui, complètement. Et puis c'est bien pour ça que ça marche aujourd'hui. Et est-ce que vous avez parlé relativement rapidement ou pas de la parentalité? Est-ce que vous étiez projetées toutes les deux individuellement, initialement, sans que vous soyez dans votre relation? Est-ce que vous étiez projetées en tant que maman? Raconte-moi tout ça.
Alors, en tant que maman, non, c'est pas venu tout de suite, parce que bon, même si on a une sorte d'engagement en Russie, ça va pas quand même aussi vite, aussi loin. Je veux dire des choses. En fait, donc, depuis qu'on a recommencé notre histoire à Montpellier, donc on a d'abord beaucoup bougé parce que Pauline dans ses fonctions, elle a été amenée à faire des mutations. Donc on a bougé du sud au nord, on a vécu en Belgique, après on est revenu en France. Après donc enfin on a fait toutes les étapes, on va dire. Déjà on s'est paxé. Dans un premier temps qui était notre premier engagement qui est venu quelques années après le début de notre relation. Donc après, nous nous sommes mariés. Donc, pour le coup, c'était un vrai engagement.
Ah oui, ça c'est un vrai engagement dur. Hein.
on n'a pas spécialement parlé d'enfants parce qu'au départ, on était aussi toutes les deux dans la construction de notre carrière, l'évolution professionnelle. On a fait des étapes pro.
Mais vous n'êtes pas mariée pour faire des enfants, vous êtes mariée pour le côté engagement.
Je ne sais pas si on s'est mariés pour l'engagement, on s'est mariés parce que c'était une façon de nous dire toutes les deux qu'on avait envie de passer notre vie ensemble. Oui, enfin, peut-être c'est un engagement un peu plus fort, mais c'était plus pour le côté sentiment.
Oui, d'accord, je comprends bien.
Ce n'était pas une étape dans la démarche PMA, si c'est ça le sens de ta question.
Oui, complètement. Surtout dans le sens de la suite, en fait, de l'adoption par la suite.
Oui, non, c'est vrai que maintenant, quand on connaît toutes les procédures et les étapes, effectivement, ça a du sens et ça, on va dire, ça aide dans les démarches d'être marié. Mais notre mariage, c'était pas du tout pour ça.
D'accord. Après votre mariage, à partir de quel moment vous avez envisagé la maternité?
Et donc, c'était quelques années après notre mariage, c'était il y a 2 ans et demi, je pense, maintenant. C'est venu assez naturellement. On s'est dit que... on n'a pas eu des longs débats. Je pense qu'il y a eu une période où on a senti toutes les deux qu'on était prêtes. Donc, on en a discuté. Je ne sais même plus de qui c'est venu exactement, tellement c'était une évidence pour nous deux. Et donc, on a commencé à faire nos recherches et nous renseigner sur comment ça se passe, quelles sont les options, les pays, la procédure, etc.
D'accord. Est-ce que tu pouvais te tourner, toi, vers la Russie ou pas ? Comment ça se passe en Russie, la PMA, pour les femmes seules ou en couple ?
Alors, en couple, je pense que ça ne se passe pas.
D'accord.
Dans le sens où, moi, je ne connais personne dans mon entourage de couples de femmes qui ont fait une PMA et qui ont des enfants. Et pourtant, j'en ai pas une ou deux, on va dire.
Oui.
Les femmes seules, je pense que c'est possible parce que c'est pas contre les grands principes de famille où il y a une maman ou un papa. Et encore, il y a pas beaucoup de. Enfin, c'est pas quelque chose qui est la démarche de PMA en tant que telle. Je pense qu'il est pas. Il y a pas de promotion. On va dire, cette possibilité. Et même pour une femme seule, c'est quelque chose de... je dirais qu'il y a quand même pas mal de stigmatisation autour de ça. Mais c'est parce que dans la société russe... Enfin, je pensais venir à ça plus tard dans notre échange, mais je vais t'expliquer quand même une base qui permettra une lecture de beaucoup de choses pour la suite. Ce qu'il ne faut pas oublier sur la société russe, c'est qu'on sort de 100 ans presque de l'Union soviétique. Et quelque chose qui caractérise l'Union soviétique, c'est la grande conformité de tout le monde. Donc, tu peux pas être différent. En fait, il y a beaucoup de notions de comment doit être une femme, comment doit être un homme, comment doit être un citoyen, qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu dois pas. Il faut surtout pas être différent.
Oui. D'accord.
Donc, une famille en Russie, une famille modèle, on va dire, dans la tête de beaucoup de gens, c'est un papa, une maman et des enfants. Et donc, les femmes seules qui se retrouvent, par exemple, quand il y a une famille qui divorce, il y a beaucoup de culpabilité derrière du fait que tu laisses, si tu divorces, enfin, je te parle des femmes divorcées parce que finalement, tu te retrouves seule avec l'enfant. Donc, c'est très mauvais pour l'enfant et je pense qu'une femme qui souhaite avoir un enfant toute seule, ça serait quelque chose de... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
Oui, ce n'est pas encore envisageable. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que pour vous, ce n'était pas du tout une option à ce moment-là de vous tourner vers ton pays d'origine. Comment vous avez fait le choix du coup ? Déjà, pourquoi vous avez fait le choix de la PMA ? Vous aviez d'autres possibilités ou à ce moment-là, vous ne connaissiez pas les autres possibilités ?
PMA par rapport à quoi d'autre ?
Par rapport à de l'insémination artisanale ou
ah oui,
de la coparentalité ou enfin voilà, tu vois, il y a plusieurs possibilités.
D'accord, ok, oui, je vois le sens de la question. Une PMA, ça nous paraissait, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Et pour moi, donc nous, on a fait une PMA en Espagne, donc avec un donneur anonyme. Et c'est pour nous, c'était assez naturel parce que dans notre vision, je dirais que c'est notre famille, c'est vraiment notre petite cellule familiale de nous deux avec notre enfant.
Mmh. Oui, donc vous aviez déjà quand même sans avoir discuté ensemble auparavant, vous aviez déjà des idées assez claires et communes pour le coup de la façon dont vous construiriez votre famille.
Je pense. En tout cas, dans nos discussions, tant mieux pour nous. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait quand tu es ensemble avec quelqu'un, souvent vous allez dans le même sens.
Ouais,
peut-être pas, mais général, on était quand même globalement sur la même longueur d'onde sur tout le processus.
D'accord. Du coup, vous êtes parti sur l'Espagne ?
Et du coup, on est parti sur l'Espagne. Pour des raisons de... d'abord, c'est, je pense que c'est aussi la proximité géographique qui a joué, qu'on est proche de la frontière espagnole.
Vous étiez à Montpellier encore à ce moment-là ?
Non, on était à Pau, on est dans le sud-ouest.
D'accord.
Donc on est parti dans le Pays basque espagnol.
Oui, donc effectivement, la proximité, bon, là, il n'y a rien à dire.
Parce que je pense que la procédure, ça peut quand même être assez stressant. Voilà, tu es dans l'attente, tu as plein d'idées qui arrivent à ce moment-là. Et je pense qu'une logistique qui est simplifiée, c'est quelque chose qui impacte peut-être aussi sur ton état d'esprit.
Ah oui, mais clairement.
La tranquillité, si... Parce que je me souviens, j'ai écouté ton podcast où vous avez dû prendre l'avion. Enfin, il y a toute une série de choses à gérer. Nous, pour le coup, c'était plus simple d'y aller en voiture et faire les choses dans des conditions, on va dire, plus sereines. Enfin, quand t'as pas la grosse logistique à gérer, ça aide.
Ouais, c'est sûr, c'est clair, t'as complètement raison.
Et puis l'Espagne aussi, c'est pour nous, enfin, quand on a commencé nos recherches, c'était que, enfin, c'est un pays quand même qui fait partie des premiers, il me semble, qui, enfin, en tout cas, ceux qui sont dans la procédure de PMA depuis assez longtemps. Donc pour nous, c'est la durée de l'expérience, c'était aussi rassurant de dire que ils savent ce qu'ils font.
Ouais, clairement. Donc vous avez choisi l'Espagne, vous êtes allé vers quelle clinique ?
On a été dans une clinique à Bilbao. On a regardé plusieurs, il y avait des cliniques sur Saint-Sébastien et sur Bilbao. On a choisi, on a regardé aussi, regardé les sites web, la façon dont ont été présentées les choses, si c'était clair, pas clair. À un moment donné, sur le site de la clinique de Bilbao, ils disaient clairement qu'ils accueillaient les couples de femmes. Enfin, le fait que ça soit dit clairement, que ça soit un peu naturel, je pense que ça a joué aussi sur notre choix.
Ouais. Et ils vous ont proposé quoi comme méthode, comme parcours?
Ils ont commencé, après comme c'était la première tentative, ils ont proposé le parcours PMA que je pense classique.
Oui, complètement.
Donc la différence, je pense, entre certains pays, est-ce que c'est le fait d'avoir une stimulation ou pas dès le début?
Et en fait, ça dépend même de chaque clinique. Je crois que chaque protocole est propre à chaque clinique.
Ah, peut-être. Comme je ne suis pas experte de toutes les cliniques, voilà, donc sur celle-là... ils nous ont proposé une petite stimulation, mais c'était la dose minimale.
Oui, pour garantir l'ovulation.
En fait. Voilà, pour être sûr que il y a plus d'une possibilité, on va dire, qui est le cas dans le cycle normal. Donc, le fait d'avoir plusieurs ovules, ça augmente quand même les chances.
Et je ne t'ai pas demandé, mais comment vous avez fait le choix de qui porterait et du coup, qui a porté votre enfant ?
C'est moi. J'ai l'impression que c'est le mot de notre couple, c'est venu un peu naturellement. Donc on n'a pas c'était un peu une évidence pour nous deux à un moment donné. Je saurais même plus te dire qui c'est qui l'a proposé. Donc on est parti sur moi et c'était très bien.
Ouais, et du coup toi tu voilà, tu étais ravie de pouvoir porter votre bébé.
Oui, j'étais ravie. Après, je pense que j'avais pas la pleine conscience de ce vers quoi je m'engageais. Enfin, je pense que de toute façon, avec les enfants, tu te rends pas compte jusqu'au bout.
C'est ça.
De où est-ce que tu vas et...
De où est-ce que tu mets les pieds, c'est clair. Et alors, au niveau de... Donc, vous faites un premier cycle avec une légère stimulation. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ce cycle est fructueux ou pas?
Alors... sur ce premier cycle, c'était ce qui est intéressant. La petite histoire de cette première tentative. Donc, à un moment donné, voilà, on décide de se lancer, on fait la petite stimulation, donc on suit la procédure. À un moment donné, ils nous disent que c'est bon, vous pouvez arriver à la clinique. Et en fait, c'était le jour de mon anniversaire.
Ah, c'est marrant.
Voilà. Et donc, je me disais dans ma tête, bon, c'est le jour de mon anniversaire. Peut-être que je pourrais avoir comme cadeau de réussir ça du premier coup. Et dans ma tête, je tournais, je souhaitais que ça. Et une fois qu'on était reparti de la clinique, donc il y a les fameux 15 jours d'attente qui sont très longs.
C'est ça.
Et je me souviens aussi, on a eu un épisode, il y avait eu juste un jour ou deux avant de faire le test. On était toutes les deux impatientes de savoir oui ou non. Et à un moment donné, Pauline, elle rentre à la maison et je lui dis, tu sais, j'ai une grosse envie de jus de tomate. Donc on a été, alors que je bois jamais du jus de tomate, sauf un avion où tout le monde en boit parce que t'es en altitude. Donc là, on se regarde. Et on se dit, bon, peut-être que c'est un signe. Et on a été effectivement acheter un jus de tomate où j'ai bu un litre en 5 minutes. Et là, on s'est dit que clairement, il y a quelque chose de pas habituel.
Et vous n'avez pas acheté un test de grossesse avec le jus de tomate?
Non. On a attendu.
J'aurais pas résisté.
Oui, ben, je pense que le coup du jus de tomate, c'était quelque chose. C'était peut-être un signe. Mm-hmm. Et un ou deux jours plus tard, je suis allée faire ma prise de sang. Et effectivement, j'étais enceinte.
Waouh! Donc, t'as vraiment tout réussi et t'as bien ressenti les choses.
Voilà. Donc, je me disais pendant, derrière toute la grossesse et encore, que c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire.
Bah oui, mais c'est clair. C'est, franchement, ça tombait. C'est génial, enfin, quand ça, ce moment. Après, c'est génial quand ça arrive à n'importe quel moment, mais là, c'est vraiment symbolique. Et du coup, cette grossesse s'est bien passée?
Cette grossesse, elle s'est très bien passée, oui. Après, je pense que comme on n'a pas fait de gros recherches, on n'a pas fait des choses longtemps pour. En fait, c'était un peu la chance des débutants, entre guillemets, et ouais. L'inconscience. En fait, je pense que le mental, il joue quand même un petit peu. Et quand tu n'as pas de projection, on n'a pas lu beaucoup d'histoires, qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner, les choses comme ça. Donc.
Vous étiez plutôt sereine.
Je me disais formidable, ça y est, et j'étais juste très contente. Bon, après, je pense que comme toutes les phases de la grossesse classique, au départ, t'es très fatiguée, après, t'es pleine d'énergie.
Oui, t'es passée par les phases habituelles.
Après, t'en peux plus et t'as hâte ton bébé arrive. Mais c'était plutôt une grossesse quand même assez facile. Enfin, j'ai pu voyager. Je suis allée à un festival de tango.
Ah oui.
Je suis allée voir une copine à Berlin. Donc, je pense que notre bébé Arsénie, il était déjà international. Il a déjà pu voyager alors qu'il n'était pas né.
Oui, c'est clair. C'est super. Et du coup, enfin, c'est quelque chose que vous allez lui apporter par la suite du fait de votre multiculturalisme, on va dire, au sein de la famille. En parlant de ça, comment ton couple déjà, comment l'engagement que vous avez pris et du coup la construction de votre famille ont été perçus par ta famille? Alors, je ne demande pas pour Pauline parce que c'est propre à chacun, c'est clair, mais c'est vrai que là, il y a la composante russe avec tout ce que tu m'as annoncé avant. Mm-hmm. Donc là, tu ne rentrais pas trop dans les normes, on va dire.
Ah non, pas du tout. Pas du tout, et après quand même pour du côté de la famille de Pauline, ça se passait très bien, et heureusement je me sens vraiment faire partie pleinement de cette famille là et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée et m'a soulagée, parce que du côté de ma famille à moi, c'était pas du tout facile.
Ben oui, je me doute.
C'est même pas le fait de se marier qui était compliqué, c'est quand j'ai fait mon coming out à mes parents, c'était pas. En fait, c'est intéressant parce que si tu regardes l'actualité russe, t'as l'impression que maintenant on est en train de interdire tout ce qu'on peut interdire à un couple LGBT.
Oui, complètement.
Et en même temps, de l'autre côté, tout le monde fait comme si tu n'existes pas. Il y a des personnalités politiques et même des gens, surtout de la génération de nos parents, qui disent « ben non, il n'y a pas de gays en Russie, non, ça n'existe pas ».
Ouais, ce qui est hyper étonnant, parce qu'à côté de ça, nous, en tout cas, perception française vue de l'extérieur et de l'extérieur très très loin, on va dire, on a l'impression que la génération actuelle est extrêmement libérée. Et commence à vraiment faire valoir ses droits, mais en même temps, il y a de la répression. Enfin, c'est vraiment pas clair pour nous, vu de l'extérieur.
Bah, en fait, si tu veux, donc pour conclure un peu l'histoire de ne pas exister, ma mère, par exemple, même après mon coming out, elle continuait à me dire que la communauté LGBT, ça n'existe pas en Russie, qu'il n'y en a pas. Et quand je lui citais des gens, quels qu'on est, de mon entourage, enfin c'est plus les gens de mon âge, des amis qu'elle connaissait, et je dis bah tu vois, lui il sort avec un garçon, elle sort avec une fille. Donc elle me répondait, elle me dit non, mais je veux pas le savoir, pourquoi tu me le racontes?
Oui, c'est vraiment la politique de l'autruche.
Donc il y a vraiment un déni, il y a un gros déni, et en fait quand quelque chose n'existe pas dans ta tête, tu as du mal à l'apercevoir, même si ça passe devant tes yeux, tu le vois pas. Mmh. Si tu vois ce que je veux dire.
Oui,
donc par exemple pour mon père, donc pour ma mère elle a rapidement compris quand même. Mmh. Et pour mon père par exemple, je lui ai dit, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, donc j'ai dit la première fois que j'étais en couple avec Pauline, et la première fois il avait même pas compris en fait. Pourtant j'ai utilisé les mots qui laissent pas d'ambiguïté, mais pense que comme la notion dans sa tête, ça n'existe pas, il n'a pas compris. Et il a fallu attendre, j'ai eu un épisode assez difficile avec mon frère, qui m'a dit des choses assez violentes. C'est là où j'ai rappelé mon frère, mon père, en disant écoute, je viens d'avoir cet épisode avec mon frère, c'est juste horrible. J'étais vexée, j'étais touchée. Et c'est là qu'il a compris, en fait.
D'accord. Oui, parce qu'il n'avait pas pris la notion de...
Voilà, et donc c'est là qu'il a vraiment compris, et donc il a coupé tout contact avec moi, mon père.
D'accord.
Ce qui était assez douloureux. Donc là, c'était vraiment une... Moi, j'ai une histoire de coming out pas facile. Mais je pense que le fait de vivre des gens... Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de vivre des gens en France. Et au moment où je l'ai dit à mes parents, je l'avais quand même dit à des amis, des gens qui comptaient pour moi en France. Et ce qui m'a beaucoup soutenue, c'est que mes copains, ils ont eu une réaction quand j'ai dit « bon, je sors avec une fille », ils me disaient « ok, cool, bon, on mange quoi ce soir ?» C'est même pas un sujet, tu vois. Et le fait d'avoir cette réalité alternative qui te soutient, je pense que ça m'a permis de ne pas sombrer en quelque sorte, parce que la réaction de ma famille, elle était très violente.
Violente.
Entre mon père qui a refusé de me parler tout simplement jusqu'à la naissance de notre fils. Ça a changé les choses pour lui, donc il a repris contact avec moi.
Mm-hmm.
Et ma mère, elle a fait beaucoup de chemin. Elle a quand même, je pense que c'est pour une maman, c'est peut-être un petit peu différent. Donc, elle a toujours, c'était pas facile pour elle non plus. Donc, elle a essayé de comprendre. Je sais qu'elle a fait un effort. Mais le problème aussi, c'est qu'en Russie, il y a une loi anti-propagande de relations homosexuelles qui fait que toute association de soutien, toute forme d'éclairage n'existe pas. Et tout ce que tu peux faire sur Internet russe, si tu tapes couple de femmes ou d'hommes, tu récupères que des atrocités et rien d'autre. Donc c'est difficile de construire une vision différente quand la société te dit ça n'existe pas, entre ça n'existe pas et c'est interdit et il n'y a personne qui va plus te parler, tu ne vas pas être apprécié, c'est... Voilà, donc d'où l'histoire de l'Union soviétique où il fallait, et de ce point de vue-là, je pense que c'est difficile pour moi de m'en vouloir à mes parents parce que je comprends le contexte dans lequel eux ils ont grandi, où tu pouvais vraiment pas être c'est vraiment une grosse honte. Et c'est pour eux, enfin, il y avait des périodes dans l'Union soviétique où ça pouvait vraiment mettre ta vie en danger.
Mais oui, mais clairement, et j'ai même l'impression que c'est encore le cas maintenant, en fait.
Dans certains endroits, oui. On va dire, c'est pas une généralité, hein. Je pense que dans la plupart des grandes villes, tu peux quand même vivre correctement et la plupart de mes copains sont ouvertement gay ou lesbienne. Il y a moins de préjugés aujourd'hui dans les grandes... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est question de ville ou question de génération, tout simplement. En tout cas, mes amis, mon entourage, ils peuvent vivre assez ouvertement là où ils vivent sans vraiment être en danger.
Mais par contre, c'est peut-être pas envisageable pour eux de penser à concevoir une famille.
Non.
Ouais. Ou alors, il faut qu'ils se rendent à l'étranger pour pouvoir... vivre carrément avec une famille.
Mais c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, ça existe. Moi, je ne suis pas de trop près, mais j'ai vu sur Internet, par exemple, qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est enregistré en tant qu'agence de voyage, mais il y a des services pour des couples russes pour qu'ils puissent aller avoir un mariage un peu symbolique en Europe. Il me semble d'ailleurs que c'est en Espagne, au Portugal, dans les pays où c'est accepté. Bon, après, en Russie, ça ne vaut rien, mais c'est pour le symbole de... engagement.
Ouais, de l'engagement, oui.
Et ça marche et ça fonctionne parce que tu ne peux pas faire reconnaître ton couple en Russie, ça c'est vrai. Donc tu peux vivre en tant D'accord, que coloc, carrément... si tu veux, copain.
Oui, donc il y a carrément un business de voyage qui s'est monté autour de ça, c'est dingue, hein. Ça me paraît être... C'est pas dans notre époque quelque part, tu vois, enfin pour nous Français... On a l'impression qu'on parle d'une époque qui est révolue.
Oui, mais complètement. Mais pour moi, maintenant, aujourd'hui, ça me paraît aussi assez bizarre. Par exemple, en Russie, si je vais, je ne sais pas, dans une banque ou dans des moments où tu es face un peu à une institution, tu ne vas pas dire facilement que tu es en couple avec une femme. Alors qu'ici, pour moi, c'est même plus un sujet.
Alors que nous, tu vois, on trouve que c'est encore un sujet. suffisamment pour qu'on continue à vouloir faire avancer les choses, parce que c'est enfin, ça nous paraît encore pas simple. Avec ce que tu nous racontes, on se rend compte que voilà, on sait d'où on vient.
Oui. Aussi. Et même en France, c'est pas le cas partout. Peut-être qu'on parlera plus tard, mais on a notre petite histoire, même pas une grosse histoire désagréable de discrimination, et peut-être qui prouve aussi que c'est pas le cadre législatif et la sécurité qui est donnée par la législation nationale, c'est pas 100%, ça te garantit 100% pas être discriminé.
Ça c'est sûr. Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, parce que je pense que ça a quand même son importance. Tes parents vivent en Russie encore ?
Oui.
Tes frères et sœurs aussi ?
Toute ma famille vit en Russie, je suis.
D'accord, oui. Donc ça joue énormément. Et tu me disais que depuis la naissance d'Arseny, ton papa avait fait un peu machine arrière ou avait reconnu, en tout cas il a voulu sûrement connaître son petit-fils. Ça a changé les choses pour vous ?
C'est pas... Après, on n'avait pas eu du tout de relation pendant ce temps-là, pendant à peu près 7 ans.
Oui, c'est énorme.
Oui, que j'ai très mal vécu. Enfin, je peux en parler maintenant parce que c'est du passé. Mais ça a été très douloureux pour moi. Et je ne sais pas s'il a voulu reconnaître son petit-fils. Je pense que c'est le simple fait de... Pauline, elle était sûre, dès le départ, que ça allait faire un déclic chez lui. Elle me disait, tu verras, elle va reprendre contact avec toi, tu verras.
C'est vrai que l'arrivée des petits-enfants, en général, ça déverrouille quelque chose. Nos familles deviennent des familles, en fait. Et donc, comme on rentre dans une case, ça, tout le reste, on passe à côté, quoi.
Donc, ça a débloqué quelque chose dans sa tête, en tout cas. Voilà, il a repris contact, il m'a fait une petite vidéo pour me féliciter, ce qui m'a fort surpris à ce moment-là. Après, 7 ans de silence, tu ne sais pas trop comment réagir.
Bah oui, tu m'étonnes.
Après, Pauline, elle a été très en soutien pendant toute cette période, depuis le début, quand j'ai annoncé être avec elle à mes parents et jusqu'à toute l'évolution, elle le soutenait, elle me disait « Non, mais il faut que tu essaies, il ne faut pas que tu baisses les bras. » C'est peut-être aussi le fait que dans sa famille à elle, ça se passe très bien, on est très acceptés et il n'y a pas de sujet. Je pense que la famille, c'est quelque chose qui compte pour elle aussi. Donc, toujours pousser, et même avec ma mère qui a aussi fait un chemin entre non, ça n'existe pas. Après, elle a quand même, on est venu en Russie avec Pauline, elle a rencontré Pauline. Après, elle est venue en France. Pauline, elle a commencé à apprendre le russe aussi, ce qui a facilité la communication. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ce chemin-là. Et pas, elle a aidé aussi, je pense, notamment à ma mère, à faire ce chemin. Et après, quand mon père m'a réécrit, il était là aussi. Il me disait, peut-être c'est le moment de reprendre la communication, de rebondir sur autre chose. Donc, elle a beaucoup impulsé, même dans des périodes où moi j'avais des doutes, je baissais les bras, elle m'a toujours vraiment soutenue là-dedans.
Et là, aujourd'hui, votre relation, alors je me doute qu'elle n'est pas revenue à la normale, mais. Ton père accepte votre situation, reconnaît son petit-fils ?
Mais je pense que la question de reconnaissance de son petit-fils, elle se pose même pas. Oui, il le reconnaît. Je pense que c'est ce qui a changé, c'est plutôt la reconnaissance de notre couple.
Oui, voilà, c'est ça. Mmh.
Le fait de, en tout cas, dans ses messages, il a commencé à dire « dis bonjour à Pauline ». Chose qu'on n'aurait pas imaginée il y a 5 ans, par exemple.
Oui, c'est vrai. Donc là, vraiment, il a reconnu même. Et juste rien que Pauline, déjà, il l'a reconnue.
Oui. Après, on va dire que c'est tout frais et bon, c'est difficile de repasser à une relation comme avant.
Ça, c'est normal.
Après tout ça, mais je pense que tout le monde fait du chemin. Moi aussi, j'essaie de comprendre, même si c'est pas évident, de tes parents, tu attends un peu de l'amour inconditionnel, ce qui est normal. Donc, tu comprends pas pourquoi ils peuvent t'aimer parce que t'es comme ça et pas t'aimer parce que t'es différente.
C'est vrai que c'est difficile et pourtant, quand tu prends de la hauteur, tu te dis, mais ils devraient nous aimer pour nous, même malgré nos choix finalement. Mais des fois, les choix, quels qu'ils soient, rien que de leur conjoint, ils peuvent les heurter. Et c'est là-dessus que, pour moi, et je pense que pour toi aussi, ils devraient passer quand même au-dessus pour leurs enfants.
Moi, je pense.
Bien d'accord.
Après, voilà, c'est quelque chose. Je pense que c'est du chemin pour tout le monde qui n'est pas encore terminé, mais on avance.
C'est le principal, vous avancez. Alors du coup, comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée d'Arseny ?
Alors, l'arrivée d'Arseny, ça s'est passé bien, mais c'est vrai que je pense que t'es jamais 100% prête, même si tu imagines une chose. Et après, c'est l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse tout.
Complètement.
On a été après à la clinique, tout se passait très bien, dans le sens où on a eu, et même pendant, moi je dirais que depuis même la conception et jusqu'à l'accouchement, on n'a pas eu vraiment de différence de traitement, on s'était pas senti discriminée, différente à aucun moment de notre parcours médical. Mm-hmm. Et donc à la clinique, moi j'ai eu une césarienne.
D'accord.
C'est Pauline qui a accueilli Arsénie en peau à peau dans les premières instances. Après, je ne peux pas parler de son expérience à elle. Hein.
Oui, bien sûr.
On était très, voilà, quand il était arrivé, on était très heureuses, attendues. C'était bien. Après, je pense qu'il y a des détails qui s'effacent un petit peu.
Oui.
La procédure de la césarienne qui reste quand même une opération. Et puis, voilà, le premier jour où tu dors pas plus qu'une heure.
C'est ça.
Mais on était très heureuses. Ce qui me reste dans la mémoire, c'était malgré toutes les petites difficultés du quotidien, on va dire, tu es heureuse parce que tu es devenue maman et tu es dans un rôle que tu connais pas du tout, tu explores en marchant. Et j'ai que des bons souvenirs de cette période.
Que des bons souvenirs. Arsénie a quel âge aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il a 18 mois.
18 mois. Donc vous avez dû lancer la procédure d'adoption ?
Oui.
Comment ça se passe pour toi ? Parce que du coup, tu pourras lui transmettre ta nationalité russe ou pas ?
Alors ça, c'est quelque chose que il faut vérifier.
Tu ne le souhaites peut-être pas.
Bah, on va dire que on s'est déjà posé la question, est-ce qu'il faut lui la transmettre d'un point de vue de tout ce qui se passe vis-à-vis des familles homoparentales en Russie, où il y a clairement aujourd'hui inscrit dans la Constitution que la famille, c'est un papa et une maman,
oui.
Même si c'est un symbole quand même assez fort, on va dire. Donc après, quand j'étais en Russie, j'avais pas d'enfant à l'époque, mais je pense que dans la vie de tous les jours, tu as pas vraiment de risque. En tout cas, là où j'ai vécu et là où vivent mes proches, t'as pas de risque de agression. Mais je ne sais pas si tu peux dire ouvertement dans la rue ou n'importe où, quand Arsénie, par exemple, s'il nous appelle maman et maman, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retourner.
Oui.
Donc, il y a la législation, il y a aussi cette attitude générale dans la société. Donc, c'est sûr que si en France, notre couple considère comme un couple normal au quotidien, sauf quelques épisodes, dont le gros épisode de l'adoption, où tu te sens comme un couple normal. Je pense qu'en Russie, je ne sais pas si on y va tous les trois, je vais être tout à fait tranquille.
Oui, je me doute. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, la question effectivement de la transmission de la nationalité se pose vraiment.
Après, c'est pas... Et par exemple, quand j'ai commencé à me renseigner, c'est peut-être un exemple. Bon, déjà, des couples homoparentales en Russie, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas de connus. Mmh. Moi, j'ai vu sur Instagram, il y a un couple de filles qui habitent en Argentine, qui sont russes toutes les deux, qui ont un blog et qui ont un enfant. Et apparemment, j'avais lu récemment qu'elles ont eu un refus de nationalité pour leur enfant,
oui, carrément.
Pour cette raison, parce que leur couple n'est pas reconnu.
Et du coup, ça veut dire que l'enfant, il est argentin parce qu'il a la nationalité de sol ou il est apatride ?
Je ne pense pas qu'il soit apatride. Hein.
Bah oui, ce serait quand même bizarre.
Après, je ne suis pas spécialiste ni du droit argentin, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, au moment de mes recherches, j'ai vu ça. Je me suis dit que je vais peut-être les contacter. Mais en ce moment, on se posait la question, même avec la nouvelle constitution, comment tu y vas par exemple, d'un point de vue administratif, il y a plein de questions. Par exemple, si tu es marié avec un étranger, tu peux avoir un visa conjoint. Si tu veux, mais Pauline, elle ne pourra jamais avoir un visa conjoint.
Ben oui, puisqu'elle n'est pas reconnue.
Et même s'il n'y avait pas cette législation, là, c'est clairement écrit dans la Constitution, mais même avant, je pense que ça ne serait pas possible.
Parce que la constitution, l'article de la constitution dans lequel il est indiqué que une famille c'est un papa, une maman et des enfants, c'est un article récent.
Oui, c'est une. Il y a eu un référendum cette année d'ailleurs.
Oh là là, mais c'est dingue.
Après, faut savoir aussi que, je sais pas si je suis représentative parce que évidemment tout mon entourage est contre cet article de loi. sinon, ça serait pas mon entourage. Mais c'était un référendum sur une révision de la Constitution et ça a été la révision. Elle a été faite, on va dire, un paquet. Donc il y a eu plein de changements et en gros tu votais pour oui ou non.
Ouais, pour le package au global, quoi.
Oui, mais il y avait le package sur plein de choses de sociétales.
Oui,
ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas toute la société russe qui a voté pour ça. Donc oui. Les gens, ils ont voté oui ou non. Il y avait plein de sujets complètement différents. Parmi ces sujets, il y avait cet article-là, mais néanmoins, il y est maintenant.
Oui. Ça me paraît mais à des années de lumière.
Ah oui.
L'évolution de notre société, c'est fou. Donc bon, du coup, concernant l'adoption, de toute manière, la question se pose même pas pour la Russie, pour le côté russe.
Après, je pense que Arseny, il pourrait avoir la nationalité par le fait que je le porte.
Oui.
Ça, c'est tout un sujet. Par exemple, c'est le fait que je sois la mère biologique lui ouvre ce droit à la nationalité russe. Mais après, je pense que la nationalité, c'est peut-être mon côté international. C'est plus une formalité. Je vais de toute façon lui transmettre la culture russe. On va de toute façon y aller. Il voit ma famille. Enfin, pour moi, la nationalité, ça t'ouvre le droit de peut-être traverser la frontière plus facilement. Enfin, d'un point de vue administratif. Après, voilà, t'as des droits et des obligations en plus de l'ordre moral. Mais globalement, s'il a pas la nationalité, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas avoir la culture russe.
Oui, complètement. La culture, ça, c'est clair que c'est autre chose. Vraiment, la nationalité, ça va impacter la résidence permanente, je pense, sur le territoire russe. Ça n'a pas l'air d'être dans vos projets actuellement, mais
voilà.
Enfin, surtout vu comment votre famille est.
Oui, c'est ça.
Et perçue. Et alors, en France, comment ça se passe? Enfin, du coup, là, toi, on est bien clair, tu as la double nationalité, tu t'es mariée avec Pauline. Donc, aujourd'hui, vous avez accès à l'adoption en France et donc une reconnaissance en France. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place par rapport à ça ou pas encore?
Oui. Donc, c'est là où je voulais te parler de ce fameux cas de discrimination. Justement, donc on a fait la démarche d'adoption assez rapidement. En gros, dès qu'on a pu légalement, dans les délais, d'y aller après pour le premier consentement à l'adoption, puis à l'adoption, on l'a fait vraiment dans les premiers mois qui suivaient sa naissance, justement pour avancer plus vite, parce que pour nous, c'était inconcevable que Pauline ne soit pas reconnue en tant que maman de Arseny, alors que dès le début, elle l'était. Et donc, on s'était renseigné. Donc, il y a là pour la procédure. Donc, d'abord, tu vas chez le notaire où il y a la maman biologique qui donne le consentement à l'adoption. Après, tu le confirmes et après, tu fais la procédure de construction de ton dossier. Donc, on s'est renseigné sur. Donc, il y a plusieurs types d'adoption, adoption simple, adoption plénière. Donc, on a regardé sur Internet ce qui nous paraissait plus adapté à notre situation, c'est l'adoption plénière. Donc, nous sommes allés, première étape, nous sommes allés chez le notaire où on explique la démarche, pourquoi on l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? C'est l'adoption plénière. Et donc, monsieur le notaire, en fait, il nous a expliqué que en fait, ce qu'il nous fallait, c'est une adoption simple. Et je pense que même c'est toi dans ton podcast à un moment donné où tu disais il y a une clause, enfin en tout cas il y a une phrase sur le fait que le parent, ça coupe le lien de parentalité avec le parent biologique.
Oui, tout à fait.
Qui peut poser le doute.
C'est ça.
Et donc en fait il a joué sur ce doute-là, donc on s'était dit mais en fait ça va couper le lien avec moi, c'est pas ce qu'on veut. Donc on a commencé à se poser plein de questions, donc il a réussi à nous mettre le doute et donc nous orienter vers l'adoption simple. Donc on fait le consentement, on signe les actes, on va voir la notaire à qui on explique aussi notre situation adoption simple, du coup, l'avocate n'a pas fait de remarques non plus. Mm-hmm. Donc le dossier, il part. Donc on était très contentes d'être organisées et d'avancer. On avait hâte de finaliser ce processus et devenir pleinement une famille avec un livret de famille. Donc ça part. Et puis pendant le confinement, à un moment, Pauline, elle a, je sais plus pour quelle raison, donc elle a commencé à écouter des podcasts. Donc elle est tombée sur le tien. Mmh. Où il y avait justement ce podcast avec Maître Duré sur la différence des différents types d'adoption, etc. Et à un moment donné, il revient me voir un peu où je vois qu'il y a un truc assez grave qui se passe. Elle me dit, je pense qu'on est en train de faire une démarche complètement à côté de la plaque. Donc elle me fait écouter le podcast. Où on se rend compte effectivement toutes les deux que c'est pas du tout qu'on est en train de faire une adoption simple alors que c'est la plénière qu'il nous fallait. Donc ce qu'on fait, premier réflexe, Pauline elle a envoyé le lien du podcast au notaire et à l'avocate.
Oui.
On a eu du mal à avoir des retours. Bon, après, je passe un peu le détail. Donc, on a finalement réussi à avoir le rendez-vous chez le notaire où il a dû nous refaire la procédure pour une adoption plénière. Et donc, au départ, en fait, on se disait que, bon, peut-être que, en fait, on a mis ça un peu sur le compte de l'incompétence, si tu veux. En se disant, voilà, on est loin de Paris, peut-être, pas une grosse métropole, les gens suivent pas trop, peut-être, il est pas à jour, l'avocate n'est pas à jour dans leur dossier. Mm-hmm. Et donc, en fait, on a découvert que le notaire, il était très à jour dans ses dossiers et c'était des convictions personnelles. Parce que lors du deuxième rendez-vous, quand on est venu refaire les actes, il nous a expliqué que, en fait, on privait notre enfant du droit d'être reconnu par son vrai père et adopté par son vrai père un jour. Donc, on le privait et qu'on en parlera dans 18 mois, dans 18 ans, quand il portera plainte. Enfin, voilà, il nous a dit plein de choses.
C'est
impressionnante.
Il a outrepassé ses droits.
Je pense qu'on a été en état de choc pendant plusieurs semaines. Tu vois, quand tu parles de la Russie où tu peux avoir des lois, etc., mais tu peux être en France avec une législation qui te permet un certain nombre de choses et finalement être discriminé par des convictions personnelles alors que tu payes un spécialiste.
C'est ça, et que tu payes un acte. Et je suppose qu'il vous a fait repayer l'acte suivant.
Non, on a réussi à avoir à ne pas payer les actes quand même, mais bon.
Ah oui. Non, tu m'étonnes.
Voilà, mais c'était vraiment, je pense que c'est quelque chose qui nous a choqué et qui nous a un peu ouvert les yeux. On s'était dit qu'on était peut-être un peu insouciante justement en se disant qu'on est en France. Voilà, il y a l'opinion publique quand même, la législation, enfin, il y a les choses qui sont beaucoup plus évoluées que par exemple en Russie. Mmh. Finalement, t'es jamais à l'abri, ça nous a vraiment choqué.
Ouais, complètement. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai souhaité enregistrer cet épisode-là avec Maître Duré, parce que c'est arrivé, on m'a contacté une paire de fois pour ce genre de choses, parce que souvent les personnes ne savaient pas se positionner sur une adoption simple, une adoption plénière, et que nous-mêmes, on nous avait très mal orientés au départ. Aujourd'hui, je me rends compte de l'intérêt de ce type d'épisode, parce que vraiment, il y a des moments où on n'est pas bien renseigné, pas bien informé.
Mais complètement. Après, je pense qu'on a fait aussi confiance aux professionnels. Quand tu payes un spécialiste, tu dis que c'est normal que la personne,
elle doit faire abstraction de ses opinions.
Exactement. Donc, on n'était pas du tout préparé à ça. Mais derrière, d'ailleurs, on a pris une consultation avec Maître Duré, qui nous a bien renseigné et expliqué tous les détails. Et on s'est rapproché d'elle pour la suite de notre dossier.
D'accord. Et c'était une très bonne idée, je pense.
Très bonne idée, mais on n'était pas du tout préparé à... C'était vraiment un choc.
Oui, je comprends. Et du coup, pour vous, aujourd'hui, l'adoption, forcément finalisée par Maître Duré, ça a dû plutôt bien se passer.
Bah, c'est un cours, donc on a perdu un an, on a perdu plus qu'un an.
Oui.
Et puis, mais bon, après, il vaut mieux perdre un an que de faire quelque chose qu'il faut de faire. Et c'est ton podcast et la consultation avec Maître Duré, c'est arrivé vraiment au bon moment. Parce qu'on a dû stopper la procédure. Enfin, même maintenant, on va tout refaire, mais on a dû stopper la procédure. On a pu le faire au bon moment. parce qu'on a reçu la convocation juste, enfin c'était une question de semaines en fait, quelques semaines plus tard, avoir arrêté, enfin faire les démarches pour refaire la procédure, on a eu la convocation
du tribunal
pour une audience, oui.
Ouais, tu vois là, vraiment, je vois la, l'intérêt de mes podcasts et le podcast. C'est ça. Mais je vais même te dire, hein, j'ai une de mes amies qui d'ailleurs est passée sur le podcast, qui a eu exactement le même réflexe. En fait, elle a été mal conseillée et elle a écouté l'épisode en question et elle m'a dit écoute, je crois que qu'on fait n'importe quoi, enfin qu'on fait pas ce qu'il faut et je vais tout refaire pour qu'on passe sur une adoption plénière. Et pourtant, on en avait parlé autour d'un verre, tu vois. Mais il y a des fois, tu te fais tellement influencer par les professionnels parce que tu penses qu'ils savent ce qu'ils font. Des fois, c'est pas le cas, ou tu penses qu'ils ne font pas impacter leurs opinions personnelles dans leur travail, puisque c'est pas très professionnel. Oui. Mais en fait, c'est pas le cas. Dans la vraie vie, ça se vérifie pas.
Oui. En tout cas, oui, très mauvaise surprise.
On arrive en fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Du bonheur.
Beaucoup de bonheur. Ça a l'air d'être déjà pas mal le cas.
Oui, oui. Oh, que ça continue à bien se passer comme ça se passe.
Oui, je me doute bien. Je me doute bien. On va aussi te souhaiter que la Russie lâche un peu du lest, hein, ce sera peut-être pas mal.
Oui, bon, ça je pense que tu peux le souhaiter à moi et à toute la communauté LGBT.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, à toute la communauté LGBT russe, parce que voilà, ils vivent des moments qui ne sont pas simples, clairement. Je suis ravie d'avoir découvert ton histoire, votre histoire. C'est vrai que de suite, ça m'a interpellée quand on avait échangé. Et vraiment, cette composante russe, elle m'intéressait parce que on le perçoit, mais on se rend vraiment pas compte de ce qui se passe en Russie parce qu'on n'est pas dedans, parce qu'il y a les filtres des médias aussi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience et qu'on garde cette conscience de là d'où on vient. Et encore, c'était pas à la hauteur de ce qui se passe en Russie. Et pour se rendre compte de la chance qu'on a, malgré tout, d'avoir la possibilité en France de grandir avec nos... Enfin, que nos familles grandissent et de pouvoir grandir nos enfants légalement, on va dire.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir.
Je t'en prie, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. À très bientôt, Anna.
À bientôt.
Depuis l'enregistrement, Anna et Pauline ont fait prendre en charge le dossier d'adoption par Maître Duré et viennent d'obtenir l'adoption plénière de leur petite Arsène. Je les en félicite et je dois vous dire que ce type de retournement de situation me conforte dans l'importance d'informer et de fait de produire ce podcast. Chance au hasard donc, et au confinement, je les félicite de n'avoir rien lâché. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le conseiller s'il peut aider à son tour, ce sera une belle récompense pour moi. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le partager donc, mais aussi le noter sur votre plateforme d'écoute. J'adore les étoiles, surtout par 5. Et me laisser un petit commentaire. Je vous invite à me rejoindre aussi sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour continuer la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode, un hors-série dédié aux droits des femmes. Belle semaine à vous. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold
hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath. Behind the things you'll never own. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone. Less alone.